Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler de troubles ou de maladies du quotidien, souvent bénignes, parfois fréquentes, notamment durant l'enfance. Des affections qui touchent la zone du nez, des oreilles, de la gorge, autrement dit ce que l'on appelle la sphère ORL. Il s'agit en fait de nombreuses affections qui peuvent avoir des origines diverses et c'est bien cela qui va déterminer la nature ou même la nécessité d'un traitement virus ou bactéries. Mais dans certains cas, une ordonnance ou un ou plusieurs médicaments ne suffisent pas forcément, voire ne sont pas nécessaires pour résoudre le problème. Certaines affections ORL vont nécessiter davantage d'explications, d'accompagnement, on pense en particulier aux acouphènes. D'où l'importance de consulter, de poser le bon diagnostic pour déterminer la bonne prise en charge, des réponses adaptées qui soulagent. Et vous allez pouvoir poser toutes vos questions sur ces affections ORL en direct au cours de l'émission à notre numéro WhatsApp au 33 7 71 18 46 41. Angite, rhinite, otite, comment traiter les affections ORL? Un spécialiste pour vous répondre en direct dans les studios de RFI, docteur Gérald Fin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien otorhino-laryngologiste à Paris et on va retrouver tout à l'heure en ligne du Bénin le docteur François Avakoudjo qui est praticien au centre hospitalier universitaire de zone de Sourou-Léré à Cotonou. Il est aussi maître de conférence agrégé à la Fac des sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi. Et puis en fin d'émission, on retrouvera la chronique nutrition de Bintou Chersek, diététicienne nutritionniste à Dakar au Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Ces affections ORL assez fréquentes, la plupart du temps bénignes, et d'ailleurs, docteur Gérald Fin, est-ce qu'il est nécessaire d'aller voir un ORL quand on a un problème ORL?
C'est une très bonne question, puisque la rareté de cette spécialité des médecins spécialistes fait qu'un ORL ne devrait voir que des choses un petit peu compliquées. Mais les diagnostics en ORL sont compliqués. Donc les gens aiment bien avoir affaire à un spécialiste. L'ORL, n'oublions pas, c'est un carrefour entre le nez, la gorge, les oreilles, le cerveau, les poumons et le tube digestif. Donc on a une spécialité très vaste, très large, qui touche tous les âges, entre 0 et 120 ans.
Alors ça veut dire que les personnes qui arrivent chez vous, pourquoi vous dites c'est complexe? Pourquoi? Parce qu'on peut confondre plusieurs affections ou parce que dans certains cas, il est très complexe de déterminer l'origine du problème?
Alors, le diagnostic n'est jamais très compliqué, simplement, il y a de multiples pathologies qui touchent l'ORL.
Alors, par exemple, c'est vrai, on se dit, j'ai mal à la gorge, ça peut être une multitude de maladies.
Ça peut être plein de choses, ça peut être d'une contracture musculaire à une maladie plus grave.
Ça veut pas dire qu'il y aura toujours une ordonnance avec des médicaments, très loin de là. Hein.
Bravo.
Alors, si vous me faites des réponses aussi courtes, on va vite plier l'affaire, docteur Gérald Fin. On assiste fréquemment au recours à l'automédication parce qu'on dit ces deux adjectifs, hein, bénin, fréquent. Est-ce que le premier réflexe du patient, d'ailleurs, même quand il arrive chez vous, c'est d'abord d'être passé à sa pharmacie, pas au rayon justement où on va demander le conseil forcément du spécialiste, mais bien d'aller choisir soi-même son petit cachet qui fait du bien.
L'exemple dont on va parler, c'est les rhumes. Les rhumes, on peut s'auto-médiquer et on a de multiples médicaments en pharmacie en vente libre. Et les gens consultent finalement quand la simplicité de l'automédication ne marche pas et ils viennent nous voir parce que leur rhume, malgré les traitements qu'ils prennent en automédication, ne sont pas efficaces.
En même temps, quand un médecin vous répond « ce n'est qu'un rhume », même si ça nous empêche de dormir, même si ça nous perturbe la vie, c'est un petit peu une réponse contrariante pour le patient.
Oui, parce que c'est entre la bénignité de la pathologie et la gêne qui en découle. Donc la gêne fait que les patients ont besoin d'être soulagés dans les 48 heures.
Alors, grave, pas grave, hein, fameuse question. Première question de Jack du Burkina Faso qui demande quelles peuvent être les complications d'une maladie bénigne, précisément comme le rhume. Est-ce que dans certains cas, ça peut devenir quelque chose de vraiment problématique pour la santé?
Alors, un rhume, donc il y a plusieurs causes de rhume, on y reviendra tout à l'heure. Un rhume peut être simplement gênant à court terme. Donc, un rhume peut durer entre une semaine et 6 semaines en moyenne, hein, il faut le savoir. Et un rhume peut provoquer des complications au niveau des sinus, les fameuses sinusites qui sont plus rares que l'on croit, des complications au niveau des poumons, qui sont des bronchites, des pneumonies ou des trachéites, des complications au niveau des oreilles, qui sont les otites. Donc le nez, c'est un carrefour. Ce carrefour entraîne des complications au niveau de tous ces affluents, oreilles, poumons, sinus. Donc un rhume, ça peut être totalement banal, et surtout un rhume peut durer en permanence. Donc on a des rhumes qui sont en permanence. Par exemple, les phénomènes allergiques. L'allergie est une maladie qui touche environ une personne sur deux. C'est une maladie génétique. C'est une hyper-réactivité environnementale. Je n'aime pas tellement le mot allergie. Et cette hyper-réactivité environnementale à l'air qu'on respire, donc il y a plein de facteurs dans l'air, dont la pollution, aux aliments que l'on mange, aux vêtements que l'on porte, à l'émotion et l'effort, va provoquer une libération d'une hormone qu'on appelle histamine. Et cette hormone naturelle entraîne une hypersécrétion d'histamine et donc un rhume plus ou moins permanent. Donc il y a plein de causes des rhumes. Et les consultations sont tellement fréquentes qu'effectivement, les généralistes devraient nous aider, car la demande est énorme et les gens sont très gênés par leur nez bouché, par les mucosités qui coulent par devant, qui coulent par derrière. Donc les gens, ils raclent la gorge, ce qu'on appelle un MH en médecine. Ça fait tousser, ça modifie la voix. Donc ça inquiète beaucoup par les symptômes, surtout si on ne donne pas de diagnostic.
Alors, docteur Fin, dans pas mal de cas, les plaintes concernent le caractère répétitif de certaines affections. C'est le cas pour une auditrice de Guinée, elle s'appelle Nantou. Elle nous écrit au sujet de son fils qui a 2 ans. Il a été opéré des végétations l'année dernière suite à des rhumes à répétition, des vomissements même, des difficultés respiratoires lorsqu'il était couché. Et elle constate une amélioration depuis l'opération. Mais, je vous lis son message, il cherche toujours à sentir les odeurs des gens. Elle se demande si ça peut avoir un lien avec l'opération des végétations.
Absolument pas. Absolument pas. Non, la blessure des végétations qui est une attention qui se fait moins souvent qu'à mon époque, améliore la situation d'obstruction nasale et des rhumes à répétition, mais simplement son fils recherche, comme beaucoup d'enfants, des sons, des odeurs. Il est en recherche de son corps, tout simplement.
À 2 ans, c'est le moment des grandes découvertes.
Exactement.
Oumar de Guinée, lui, voudrait savoir s'il y a des moyens de prévention contre les infections RL en milieu rural et poussiéreux. Ça nous ramène à ce que vous venez de nous dire. Hein. Quand on est un petit peu allergique, la poussière, la respiration d'un air qui est chargé de plein de petits éléments irritants, ça peut vraiment être problématique.
Alors, c'est un vaste domaine. Donc, la prévention, théoriquement, on ne doit pas être malade. Un adulte doit faire une infection maximum par an. Des petits rhumes qui disparaissent tout seuls. Le fait d'être fragile dénote 2 facteurs qu'il faut rechercher. D'abord, la fragilité aux microbes, aux infections. Donc, il existe des vaccins depuis 50 ans contre le pneumocoque, le Prévenar, le Pneumovax, que tout le monde connaît, qui devrait être institué chez les patients fragiles. Il existe des vaccins contre l'hémophilus, qui est un germe également extrêmement fréquent. Cette vaccinothérapie marche très bien contre cette fragilité. Donc, elle devrait être préconisée par tous les médecins qui devraient savoir qu'on ne le donne pas uniquement chez les personnes âgées ou chez les enfants. La deuxième raison, et qui est un amplificateur de cette fragilité, c'est l'allergie dont on a parlé tout à l'heure. Alors, personnellement, je n'envoie pas trop mes patients chez les allergologues. Je préfère prescrire des antihistaminiques qui existent depuis un siècle et qui marchent très bien. Il suffit de trouver parmi la 50aine de médicaments celui qui marche et la dose efficace. Et l'association d'un antihistaminique et d'une vaccinothérapie règle les problèmes la plupart du temps dans 90% des cas.
Alors on va prendre une première auditrice en direct. On part pour le Niger avec nous. C'est Dan Tani qui nous appelle de Difa. Bonjour Dan Tani.
Bonjour madame.
Alors vous avez un problème localisé au niveau des oreilles. Expliquez-nous de quoi il s'agit s'il vous plaît.
Il s'agit de l'otite.
Ouais.
Au niveau de mon oreille gauche.
Alors il y a pas mal de bruit derrière vous, j'imagine que vous êtes en pleine rue. Ça dure depuis combien de temps cette otite s'il vous plaît?
Depuis mon enfance.
Et vous dites otite, pourquoi? Parce que vous avez consulté, ça a été diagnostiqué?
Oui, bon, ça a été diagnostiqué, mais comment? Parce que bon, c'était par mon père là, qui était un nettoyant.
D'accord.
Donc lui qui avait diagnostiqué ça, on peut appeler ça comme ça.
Vous traitez ça comment aujourd'hui? Vous traitez ça comment? De quelle manière?
Par automédication, vraiment, par automédication.
Automédication, ça veut dire quoi? Vous allez à la pharmacie, vous expliquez les symptômes et ils vous donnent un médicament ou vous allez directement chercher le médicament que vous connaissez?
Oui, je connais un médicament et je pars à la pharmacie l'acheter. Il s'agit du gentamicine. Donc chaque fois quand ça se déclenche, je nettoie et je mets ça.
Pourtant, Dan Tani, vous savez que normalement, les antibiotiques, il vaut mieux que ce soit quand même un médecin qui vous les conseille et qui vous les prescrive.
Oui, je le sais, mais bon, ça vient de manière récurrente. Et vraiment, je suis un peu fatigué d'aller toujours vers le médecin.
Ok. Est-ce que vous avez d'autres symptômes associés, d'autres problèmes de santé dans cette zone ORL au niveau des oreilles?
Oui, mais en réalité, c'est comme je vous l'avais dit, ça se déclenche généralement après un rhume. Maintenant, quand je ne traite pas très vite le rhume, donc de mon côté, l'oreille cause, là, ça se gonfle.
Oui.
Et des fois, ça a un peu de... Comment dirais-je là il y a un peu de lourdeur. Et quand ça n'est pas bien traité, des fois, il y a des puits qui peuvent sortir de là.
De vos oreilles, vous avez des sécrétions de l'oreille. Dan Tani, voilà pour la description. Quelles sont les questions que vous souhaitez poser à notre invité, s'il vous plaît?
La question que j'aimerais poser, c'est que chez moi... Ça ne me fait pas mal. Mais pour mes enfants, ça fait tellement mal. Et des fois, on n'arrive même pas à dormir la nuit quand ça se déclenche.
Donc, vous avez ces douleurs très intenses et vous avez donc pas consulté, pris des antibiotiques. Docteur Gérald Fin, sur les causes de la douleur quand on est atteint d'une otite, pourquoi est-ce que ça fait aussi mal?
Alors, il faut comprendre l'anatomie très simple de l'oreille. D'abord, le nez communique avec l'oreille par un tuyau qu'on appelle la trompe d'Eustache. Donc les otites sont des maladies qui viennent du nez. Cette trompe d'Eustache s'ouvre 16 fois par minute et ça permet l'aération derrière le tympan. Donc théoriquement derrière le tympan, nous avons de l'air qui permet le fonctionnement normal de l'audition. Lorsque l'on est enrhumé souvent, cette trompe d'Eustache se bouche et donc il y a du vide dans l'oreille moyenne. Ce vide va entraîner le tympan qui se rétracte et donc une douleur et une surdité et une infection. Pourquoi les enfants ont plus mal que les adultes? D'abord, ils n'ont pas l'expérience de la douleur, donc ils réagissent plus facilement à la douleur qu'un adulte. Et surtout, la trompe d'Eustache est beaucoup plus petite chez l'enfant que chez l'adulte. Donc quelqu'un qui fait des otites comme Dan Tani et le pauvre, je sais ce que c'est puisque j'en ai eu quand j'étais enfant et j'ai des souvenirs terribles, il faut traiter préventivement le nez. C'est-à-dire que ce n'est pas normal qu'un adulte ou qu'il y ait des enfants fassent des otites à répétition, il suffit de traiter le nez. Donc on traite, comme on a dit tout à l'heure, par des vaccinothérapies pour éviter d'être malade, par des antihistaminiques qui débouchent le nez. Et si ça ne marche pas, donc on n'arrive pas à déboucher le nez, on va déboucher l'oreille et on met des yo-yo, des aérateurs, qui sont des petites ouvertures artificielles du tympan, qui permettent à l'oreille moyenne de respirer, d'être aérée, et on ne le fait plus d'otite. Donc déjà, ces enfants Dan Tani auraient déjà dû avoir des yo-yo, qui est une intervention extrêmement simple. Cet aérateur sort spontanément au bout d'un an, et l'eau est totalement autorisée, contrairement à ce que les gens pensent. C'est la loi de Poiseuil, c'est-à-dire que quand vous mettez un liquide dans l'oreille, le diamètre est tellement petit que le liquide ne va pas rentrer à travers le yo-yo. Donc quelqu'un qui fait des otites, ce sont des maladies qui viennent du nez. Il faut traiter le nez. Si on n'y arrive pas, on traite le tympan en ouvrant artificiellement le tympan.
Voilà pour toutes ces explications. Pardon. On vous remercie beaucoup, Dan Tani. Très, très bonne journée à vous. Et on va partir maintenant pour le Cameroun, retrouver un auditeur en ligne.
RFI à Yaoundé. 105.5 FM.
Et en ligne avec nous, c'est Aminou Adama. Bonjour.
Bonjour à vous, à toute l'équipe en studio.
Merci beaucoup. Vous appelez au sujet de votre fils, qui est âgé d'environ 2 ans et demi. Qu'est-ce qui vous préoccupe à son sujet?
Oui, il y a de cela 3 semaines, mon fils de 2 ans et 12 mois tapotait son oreille droite. J'ai le réflexe de torcher cette oreille qui était remplie d'une pâte blanche qui dégageait une très mauvaise odeur. J'ai introduit du coton non imbibé. Au premier nettoyage, c'était complètement blanc. Puis au deuxième nettoyage, c'était marron. Ensuite, au troisième nettoyage, il y avait des taches de sang. Juste des taches de sang. Juste qu'après, il ne tapotait plus son oreille. Mais il me disait toujours, papa, l'oreille fait mal. Papa, l'oreille fait mal. Donc, à ce sujet, j'ai donc des questions à poser au docteur.
Moi, avant que vous posiez vos questions, si vous permettez, Aminou Adama, je vais vous poser une petite question très simple. Est-ce que vous avez consulté suite à ces symptômes dans l'oreille de votre petit enfant?
Pas du tout à ce jour, je n'ai pas consulté.
Est-ce que je peux, sans aucun jugement, mais je vous demande juste pourquoi, est-ce que alors que l'enfant avait mal et qu'il y avait a priori du pus dans l'oreille, pourquoi est-ce que vous n'avez pas consulté? Parce qu'il n'y a pas de médecin à proximité ou parce que la consultation coûte trop cher? Pourquoi?
Bon, en réalité, il n'y avait pas de médecin à proximité.
D'accord. Donc, allez-y pour vos questions, je vous en prie.
Oui, merci, Catherine. Okay. Donc, mes questions sont les suivantes. Comment appelle-t-on les couleurs que j'ai retrouvées dans l'oreille de l'enfant? La couleur de la pâte, en particulier, était blanche, ensuite marron, et à la fin, c'était des taches de sang.
Quelle est la nature de cette sécrétion, hein, tout simplement, docteur Fin? Qu'est-ce que vous pouvez répondre
alors,
à notre auditeur,
déjà,
Aminou Adama?
Bonjour Aminou, bonjour. D'abord, votre petit garçon a fait une véritable otite. Une otite, comme on en a parlé précédemment, c'est une infection qui vient du nez. Donc le nez se bouche, la trompe d'Eustache se bouche, et derrière le tympan, il y a du vide. La nature, en physique, n'aime pas le vide. Donc il y a du liquide qui se forme. C'est souvent purulent chez l'enfant et malheureusement, ce pus, il sort par le tympan. Donc, ce que vous décrivez, c'est une otite moyenne aiguë avec une perforation du tympan. Et quand il y a une perforation du tympan, le pus, il est de toutes les couleurs. Hein. Il est vert, blanc, noir, tout ce que vous voulez, avec un peu de sang. Donc, ça se traite avec des antibiotiques par voie générale, un peu de cortisone, du célestène en goutte et des gouttes locales. Et il faut bien sûr consulter un ORL car il faut vérifier que ça guérisse.
Alors, je lève le doigt pour une question très importante. S'il n'y a plus les symptômes, c'est quand même la peine d'aller consulter.
C'est obligatoire.
Obligatoire. Donc là, on rigole pas, Aminou Adama, pour la santé, la sûreté de l'audition de votre enfant. Il faut aller consulter parce que ça peut être très déterminant pour son avenir. Vous êtes d'accord avec ça, docteur Fin?
Alors, oui, c'est-à-dire qu'il faut, une otite doit guérir au ça guérit entre 15 jours et un mois, et il faut vérifier qu'il n'y ait pas de séquelles. On appelle les séquelles chez l'enfant, on appelle ça des otites séreuses. Ça ne veut pas dire que c'est sérieux, ça veut dire qu'il y a du liquide derrière le tympan qui fait que l'enfant n'entend pas pendant plusieurs mois et qu'il faut traiter.
C'est possible maintenant, Aminou Adama, d'aller montrer le petit à un médecin?
D'accord, c'est possible.
D'accord, je pense que c'est un très très bon conseil. Et puis comme ça, après, vous serez moins inquiet. Il pourra vous donner toutes les explications. Il pourra surtout vérifier qu'il n'y a pas de séquelles sur l'oreille du petit. On vous remercie infiniment pour votre appel. Et on va avoir d'autres auditeurs en ligne et d'autres auditrices dans quelques instants, docteur Fin. On ira aussi retrouver l'un de vos confrères en ligne du Bénin, sera juste après. Ce titre des frères Timal, Voyez la voix dans Priorité Santé.
Si nous la gentille là, c'est pas d'avoir yo bien l'idée. Ça qui aime mes goka, ça qui
Priorité santé sur RFI. Aujourd'hui, toutes vos questions à un spécialiste des affections RL, oreilles, nez, gorge, le docteur Gérald Fin, chirurgien otorhino-laryngologiste à Paris. Docteur Fin, trouble de l'audition, dans certains cas, une gêne, des sensations qui s'installent, hein, une sorte de désagrément permanent. Vous êtes spécialiste des acouphènes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, ces bourdonnements, ces sifflements sont bien connus, bien pris en charge ?
Je pense qu'ils sont mal connus et mal pris en charge, puisque c'est un peu le combat que je mène depuis une cinquantaine d'années. C'est le même combat dans l'endométriose. Souvenons-nous que chez les jeunes femmes, on leur disait « les règles douloureuses, c'est dans votre tête, ouais. Vous n'aurez jamais d'enfant, souffrez en silence ». Les acouphènes, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que c'est un diagnostic qui est compliqué à expliquer, compliqué à prendre en charge, et on soulage quand même environ 80% des patients. Donc cette pathologie touche quand même 25% de la population, une personne sur quatre, et on comprend que la rareté des ORL fait que les ORL ont du mal à prendre en charge puisqu'ils n'ont pas le temps de l'explication et de la prise en charge à distance de cette pathologie très compliquée.
Quand on subit un traumatisme acoustique, on entend un sifflement hein, au long cours, est-ce que l'on peut agir quelques jours ou semaines après ou est-ce que finalement le mal est fait ?
Alors, le mal est fait chez les gens fragiles. L'oreille interne, la cochlée, pour parler un peu scientifiquement, contient 16 000 cellules. C'est très peu, 16 000 à comparer aux 120 millions de la rétine. Elles sont fragiles, ces cellules. Et un bruit peut être traumatisant d'emblée ou par la répétition du bruit. On considère qu'au-delà de 80 décibels, c'est un bruit de sèche-cheveux, c'est traumatisant. Donc les traumatismes sonores doivent être traités en urgence. Les médecins maintenant le savent. On donne de la cortisone, en comprimé ou en intraveineuse. Et on associe des médicaments qui sont des antidouleurs. Car un acouphène, quand il survient après un traumatisme sonore, c'est l'équivalent d'une douleur. Or, une douleur se traite par des médicaments qui agissent au niveau du cerveau, qui sont des doses, des micro-doses d'antiépileptiques qu'on donne pendant quelques semaines. Et cette association de corticothérapie et d'antidouleurs à visée cérébrale sont extrêmement efficaces. La pathologie est extrêmement fréquente chez les musiciens. Les musiciens savent tous qu'il faut traiter en urgence. Malheureusement, beaucoup de patients, quand ils ne voient pas, ils consultent tout de suite. Mais quand ils ont des petits troubles d'audition après un traumatisme, ils se disent « bon, ça va passer ». Un peu comme l'olfaction. Je sens moins bien les odeurs, ça va passer spontanément. Et il y a beaucoup de retard de diagnostic et de prise en charge.
Alors, on a un message enregistré sur le répondeur WhatsApp de Priorité Santé. C'est Esther d'Abidjan qui est en ligne et on l'écoute tout de suite.
Bonjour à tous, je suis Esther, j'ai 27 ans. J'habite en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je suis depuis quelques années sujette à des allergies et donc j'ai une rhinite allergique. Et cela se manifeste généralement par des éternuements qui sont ensuite suivis d'un rhume qui est très passager, qui ne dure que quelques heures. Et ça arrive quand je sens de fortes odeurs, de forts parfums ou que je passe d'un environnement à un autre. Je suis censée prendre des antihistaminiques chaque soir pour éviter d'avoir des crises le matin. Je ne les prends pas tout le temps. Et donc, ça fait que j'ai des rhumes assez couramment. Est-ce que le fait d'avoir des allergies presque tout le temps ne créerait pas à l'avenir un risque de sinusite à mon égard ? Et est-ce que le fait de ne pas prendre tout le temps les antihistaminiques aussi pourrait créer un risque parce que je ne les prends pas tout le temps. Donc je les prends chaque 3 jours, chaque 4 jours ou quand je sens que le rhume va se manifester le lendemain. Merci beaucoup.
Docteur Fin, on en a parlé tout à l'heure, on y revient, rhinite allergique chez Esther, elle a un traitement de fond. Première question sur cette prise irrégulière de ces médicaments.
Eh bien c'est elle qui a raison. C'est-à-dire que l'allergie se traduit soit par de l'asthme, là il faut un traitement plus permanent, soit par des maladies cutanées, urticaire, eczéma, soit par des éternuements, le nez qui coule, obstruction nasale. Donc l'allergie, 25% de la population, une personne sur deux, pardon, je confonds avec les acouphènes, ont ça comme pathologie, donc ça se traite en fonction du patient. C'est le patient qui décide. Si je ne suis pas gêné, je ne traite pas. Si je suis gêné, je traite. Et elle fait exactement ce qu'il faut faire, c'est à la demande.
Et sur le fait que cette rhinite puisse se transformer en sinusite, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ?
Alors, je la rassure complètement. Le mot sinusite est un mot galvaudé un peu en excès. Un rhume classique allergique ne se complique pas de sinusite.
Donc, ça mérite une explication. La sinusite, c'est quoi précisément ?
Alors, très simple. Le nez, on respire par le nez, il communique avec les sinus. Les sinus, ce sont des petites cavités, des petites grottes. Il y en a quelques-unes, il y en a trois d'un côté, trois de l'autre et une dans le cerveau. Et ces grottes communiquent avec une petite communication qui fait 5 mm d'ouverture. Cette communication permet l'aération du nez. Il y a de l'air dans les sinus. Quand vous êtes allergique, vous avez le nez bouché. Donc cette porte se ferme. On a dit tout à l'heure, la nature n'aime pas le vide. Et cette fermeture de cette porte entraîne des infections à répétition. Donc, on peut avoir des sinusites d'origine allergique. Ben, on traite la cause allergique. Et parfois, on doit ouvrir cette porte en microchirurgie pour aérer le sinus. Mais la plupart du temps, les rhinites allergiques ne se compliquent pas de sinusites.
Alors, on va retourner au Cameroun, dans la région de Maroua, où on retrouve en ligne Souleymanou. Bonjour, Souleymanou.
Oui, allô, bonjour, Catherine.
C'est Caroline, toujours. Hein, des angines à répétition chez vous depuis 4 ans, opération des amygdales. Alors, est-ce que la chirurgie vous a débarrassé de ces angines?
Non, pas encore. Ça fait, parfois, ça fait un mois, ça se répète.
Alors, on a entendu le coq qui vous accompagne. C'est quoi vos symptômes aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est le mal de bouche, dans le petit plaid de la bouche. Donc, avant l'opération, vous m'avez dit que quand on opère le mal de la bouche aussi, ça va partir, mais ça revient souvent.
En fait, ce que vous ne comprenez pas, Souleymanou, c'est qu'au final, la chirurgie ne vous est pas complètement débarrassée de ces angines, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Alors, docteur Gérald Fin, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre à notre auditeur du Cameroun qui pensait justement qu'en faisant, on va dire, un peu quand même l'effort d'aller sur la table d'opération, ce serait terminé ces maladies à répétition?
Alors d'abord, l'intervention d'amygdale devrait être un petit peu oubliée. On est un peu opéré en excès dans le monde de l'amygdale. L'intervention, elle est, on opère les patients dans trois indications. Une taille d'amygdale qui empêche la respiration et la déglutition, c'est le cas chez les enfants. Des trois angines en 4 mois et des complications qui ont disparu grâce aux antibiotiques. D'après ce que je lis sous Selimanou, il me dit qu'il a, malgré l'intervention, il fait des angines avec des mal de gorge, des fièvres et qu'il est traité par cortisone. Donc il nous dit que la cortisone l'améliore à chaque fois. Donc ça veut dire qu'il a une maladie auto-immune qu'on appelle le syndrome de Marshall, qui est très connu chez les enfants, qui existe chez les adultes et qui se traduit par des maux de gorge périodiques une fois par mois, qui réagissent à la cortisone. Donc, Souleymanou a été opéré très bien, et je pense que l'ORL a eu raison, mais malgré ça, il est fragile, donc il faut qu'il aille consulter un médecin interniste qui lui donnera le diagnostic, qui fera un bilan, qui lui donnera le traitement adapté à son cas.
Voilà pour ces explications. Souleymanou, vous avez une autre question, peut-être, par rapport à ce que vient de vous dire le docteur Fin?
Oui, oui, et aussi le petit plaid de la bouche et à la langue aussi, ça vient souvent, pardon.
Justement, dans ce syndrome de Marshall, c'est des genres d'aftes. Il y a un mot plus compliqué que je ne vous donnerai pas, c'est-à-dire que quand on a cette maladie, on a de la fièvre, on a des genres d'aftes dans la bouche, on a des douleurs articulaires, parfois des petits ganglions, et ça passe en 24-48 heures sous cortisone. Donc le diagnostic est assez simple, ces plaies que vous avez dans la bouche sont des équivalents d'aftes.
Voilà pour ces explications. Un grand merci pour votre appel. On part sans plus tarder vers la République démocratique du Congo et on retrouve Dadi à Guémena tout de suite en ligne. Bonjour Dadi.
Oui, bonjour Madame Caroline.
Alors vous, votre problème, ce sont des sinusites. Qui a posé ce diagnostic de sinusite, s'il vous plaît Dadi?
Oui, j'en ai vraiment souffert depuis, disons, 2005. Petit à petit, les symptômes ne faisaient que s'aggraver, notamment les palies, fièvre, typhoïde, tout ça. Mais jusqu'en 2022, lorsque je suis allé voir un ORL, il m'a envoyé faire un examen des radios et puis des scanners plutôt. On a trouvé que j'avais plutôt les sinusites qui datent de l'OTA. Malheureusement, ça n'a pas été bien soigné. Alors, il m'a prescrit certains médicaments que j'ai pu prendre pendant au moins 30 jours. Mais malheureusement, ça fait qu'aggraver jusqu'aujourd'hui. Parfois, j'ai du mal à dormir, tout ça. Et puis, l'examen indiquait qu'il y avait ce qu'on appelle une déviation au niveau des pentes côté gauche. Hein, côté gauche, il y a cette déviation-là au côté gauche. Bon, je ne sais pas l'exprimer, je ne suis pas un oreille. Alors, voilà. À chaque fois que je prends les médicaments,
ça ne marche pas, alors je ne sais pas, peut-être de par ses conseils, je pourrais avoir une solution.
Et vous a conseillé autre chose, le médecin, le spécialiste que vous avez consulté?
Oui, j'ai consulté un spécialiste, c'était en 2020, c'était à Kinshasa. Il m'a conseillé de prendre, c'était les...
Bon, le traitement, mais est-ce qu'il vous a conseillé autre chose à part les médicaments?
Non, il m'a dit peut-être si ça ne marchait pas, je devais normalement être opéré, mais l'opération ne devait se faire que par les spécialistes qui devaient venir soit du Canada ou bien de la Belgique.
Ah, parce que cette opération des sinus, elle ne se fait pas sur la place du Congo, ce n'est pas possible à Kinshasa. Il doit y avoir un spécialiste quand même à Kinshasa qui peut faire ça, non?
Bon, à moins que ça soit maintenant là, parce que je ne suis pas à Kinshasa, mais il m'a conseillé que pour beaucoup plus de précautions, il faut des spécialistes avertis pour faire ça.
D'accord. Et vous, vous êtes inquiet par rapport à cette opération ou est-ce qu'il y a des difficultés financières peut-être pour pouvoir la payer, cette opération?
Ah, s'il y avait ces moyens-là, j'allais déjà faire. Sinon,
bien sûr, je comprends. Donc, Dadi, s'il le pouvait, docteur Fain, on l'a entendu, se ferait opérer. Aujourd'hui, il a essayé à de nombreuses reprises des traitements multiples, notamment antibiothérapie pour sa sinusite. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Alors d'abord, avant de commencer, on n'opère plus les cloisons nasales. C'est quelque chose qui me chagrine beaucoup. On a tous une déviation de cloison nasale. Mm. C'est comme si on disait à quelqu'un, vous avez un œil plus petit que l'autre, donc vous voyez moins bien de cet œil. Mm. C'est pour ça. Non, c'est totalement faux. Une infection ORL ne vient jamais d'une cloison nasale. On a dit précédemment que les sinus étaient des petites cavités qui communiquaient dans le nez par une porte. Donc les causes des sinusites, c'est ou médical, donc il faut être vacciné, on en a parlé tout à l'heure, par les vaccins contre le pneumocoque, et prendre des antihistaminiques pendant plusieurs mois. Donc déjà, c'est une solution non chirurgicale qui marche extrêmement bien. Et je suis très étonné qu'on ne lui ait pas encore donné, car il n'est pas question de donner des traitements antibiotiques à répétition chez les patients. Et la deuxième chose, les interventions des sinus sont des interventions très simples, qui sont ce qu'on appelle des méatotomies, c'est-à-dire qu'on agrandit en microchirurgie la porte de communication. Ça se fait en ambulatoire. On ne met pas, quand on a un certain niveau, ni de mèche ni de rein, c'est indolore. Et je suis très étonné qu'on lui ait proposé cette solution. Donc c'est soit en amont, on traite la fragilité, vaccinothérapie antihistaminique, soit en aval, on traite la conséquence, c'est-à-dire la fermeture de cette porte, conséquence de cette obstruction nasale permanente.
Dadi, est-ce qu'il est possible de retourner en consultation, voir un spécialiste, un ORL?
Oui, c'est pour ça que je me prépare pour organiser peut-être un voyage à Kinshasa, peut-être chercher un autre ORL, parce que des fois, ça me fait aussi mal aux yeux. Vous voyez, quand il y a ces matériels-là qui tombent, ça essaie un peu de rendre un peu mes yeux flous. Mm-hmm. Et puis ça bouche le nez, donc il n'y a pas moyen de respirer. Parfois, si pour respirer, je dois prendre un petit médicament qui donne un peu de sommeil.
Donc on peut bien comprendre que cette consultation, elle est vraiment recommandée dans votre cas. Un grand merci pour votre appel et votre témoignage. On part maintenant pour le Bénin.
RFI à Cotonou, 90 FM.
En ligne avec nous, docteur François Avakoudjou. Bonjour docteur. Bonjour docteur, est-ce que vous êtes avec nous? Alors, pour l'instant, je n'ai pas de réponse en ligne du Bénin. Je retente une nouvelle fois. Docteur Avakoudjou, est-ce que vous nous entendez? Donc, nous n'avons pas de réponse. Je vais me tourner tout de suite vers une question d'auditrice. On a essayé de la joindre tout à l'heure au Tchad, à N'Djamena, mais hélas, la ligne n'était pas assez bonne. Alors, je vais me faire sa porte-parole. C'est Chancela, elle a 22 ans et elle a régulièrement ce qu'elle décrit comme des symptômes d'angine, c'est-à-dire des douleurs à la gorge, des boutons blancs au niveau de la glotte, avec à la clé vraisemblablement du pus parce qu'il y a une odeur qui est gênante. Ça peut rester une ou deux semaines, ça passe, mais ça revient. C'est récurrent, pratiquement deux fois par mois. Elle n'a pas consulté, mais elle ne comprend pas pourquoi elle a ces symptômes et elle se demande, est-ce qu'il s'agit d'une angine? Alors bien sûr, on ne fait pas de consultation, d'autant plus quand on n'a pas l'auditrice en ligne à distance, mais est-ce que ces symptômes que décrit Chancela, ça peut faire penser, suggérer la présence d'une angine, docteur Fain?
Non, absolument pas. Les amygdales sont des filtres microbiens et ces deux amygdales ne sont pas lisses comme une peau d'orange. Il y a des infractuosités qu'on appelle des cryptes. Et comme les points noirs sur la peau, les amygdales peuvent sécréter une sécrétion qu'on appelle du caséum, qui sent très mauvais d'ailleurs, qui peut venir comme ça à répétition ou de manière itérative ou de temps en temps. Et elle a ce qu'on appelle une amygdalite cryptique, c'est-à-dire une inflammation de l'intérieur de ses amygdales. Alors ce n'est pas d'origine alimentaire, c'est l'amygdale qui sécrète en excès cette sécrétion un peu malodorante. Et le traitement repose très simplement, surtout pas d'ablation chirurgicale, mais par des séances de laser. On fait une ou deux séances de laser, on abrase la surface de l'amygdale et ça guérit.
Et quand on n'a pas recours à une technologie laser,
alors,
qu'est-ce qu'on
fait ? Alors, on a les vieilles techniques qui sont les techniques à l'électricité. Mm-hmm. Donc, à l'époque, on peut faire de l'électricité ou à la cryothérapie au froid. Mm-hmm. Donc, toutes les techniques de cautérisation marchent très bien.
Voilà pour ces conseils à Chancela. Il est en ligne, docteur François Avakoudjo. Bonjour, docteur.
Oui, bonjour, madame la journaliste.
Alors, en ligne du Bénin, maître de conférence agrégé à la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Abomey Calavi, praticien au centre hospitalier universitaire de zone Assourou-Léré à Cotonou. Docteur, on a entendu tout à l'heure pas mal d'auditeurs qui attendaient, qui avaient attendu hein, pour de diverses raisons avant de consulter quand ils ont un problème ORL après l'apparition des premiers symptômes. Est-ce que ce retard de prise en charge, c'est aussi quelque chose, vous, que vous constatez dans votre contexte ?
Oui, tout à fait. On ne les reçoit pas, on ne les voit pas en première intention, en consultation ORL à Cotonou, effectivement. Souvent, quand ils ont un problème ORL, soit ils font l'automédication ou parfois ils vont voir ils font l'automédication le plus souvent avant de consulter l'agence santé si ça traîne, avant peut-être d'être orienté vers les spécialistes ORL.
Ça veut dire que par exemple, ils peuvent arriver au stade des complications à votre consultation ?
Oui, parfois, oui. Parfois, il y a des cas qui arrivent, des complications, bien entendu.
Alors, on peut le comprendre pour des raisons économiques également, parce qu'il n'y a pas énormément de spécialistes dans votre pays. D'ailleurs, ils sont combien, les ORL au Bénin ?
Les ORL au Bénin, nous sommes une quarantaine, disons 36 au Bénin, et la plupart des ORL sont concentrés à Cotonou et à Porto-Nouveau. À l'intérieur du pays, ils sont très, très rares au Bénin.
Tout à l'heure, vous avez parlé pour ces affections ORL, docteur Avakoudjo, d'automédication. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils vont à la pharmacie ou carrément, on peut même aller jusqu'au marché, acheter des médicaments quand on a une douleur ou un symptôme ?
Et tout à fait. Au Bénin, il y a quelques années où on pouvait acheter les médicaments au marché, les patients qui vont au marché acheter, ou même à la pharmacie, quand il s'agit de douleurs, des médicaments pour calmer la douleur, ou peut-être mettre des gouttes dans les oreilles quand ils ont mal. Et parfois même des antibiotiques, mais très récemment, au Bénin, il y a des dispositions qui ont été prises et plus personne ne peut plus acheter un antibiotique sans ordonnance médicale. Mais avec les réformes qui sont en cours actuellement, il ne peut plus acheter des antibiotiques du tout. Mmh. Mais ça n'empêche pas qu'ils aillent en pharmacie en premier avant de venir consulter le spécialiste.
Mmh. Et précisément, quand on a des difficultés à consulter un spécialiste, il n'y a pas de meilleur remède, on peut dire, que la prévention. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner en la matière pour éviter les affections ORL ? Conseil de prévention.
Oui, conseil de prévention, notamment pour les maladies d'oreille, les otites moyennes et qu'on peut rencontrer. On sait que ces otites viennent à partir de l'écoulement nasal et il y a une communication entre l'arrière-cavité des fosses nasales et les oreilles. Donc le plus souvent, il faut que ces patients-là lavent le nez. Notamment chez les enfants, il faut laver le nez pour éviter que les infections d'oreilles viennent fréquemment. Les vaccinations également peuvent aider, puisque souvent c'est des infections, vaccinations contre les germes qu'on rencontre le plus souvent. L'allaitement maternel également, ça apporte des anticorps, ça renforce l'immunité de l'enfant. Et l'apprentissage précoce du mouchage. Le plus souvent, les gens ne savent pas se moucher. Il faut se moucher fosse nasale, pas fosse nasale. Il faut les enseigner aux enfants, aux parents qui vont montrer ça aux enfants. Il faut éviter les lavages passifs aussi et traiter toute carence martiale, hein, les allergies ou même les reflux pour les préventions primaires, notamment pour une otite moyenne aiguë. Et dans les préventions secondaires, il faut traiter précocement. Il faut inciter les malades à consulter un agent de santé si c'est une otite ou une autre affection ORL et c'est l'agent santé peut les orienter vers le spécialiste en cas de besoin. Si c'est un corps étranger, il faut le plus souvent les pratiques qu'on constate parfois quand les gens, avant les corps étrangers, parfois ils mettent le doigt dans la gorge pour aller sortir le corps étranger, c'est une pratique dangereuse, surtout chez les enfants. Où le larynx est resitué, là, en faisant ce geste-là, on peut amener, on peut aggraver la situation de l'enfant. Mmh. Hein. Pour les otites, parfois, les gens mettent parfois de l'huile de palmiste dans l'oreille. Souvent, ils font, mais l'oreille moyenne est une enceinte close. Donc, le goutte, c'est l'huile qu'on met dans l'oreille, ça ne va pas régler le problème du tout. Mmh. Il vaut mieux laver le nez que de pouvoir mettre de l'huile dans l'oreille.
Oui, toutes ces mesures de prévention, on l'a bien compris, consulter en centre de soins dès qu'on a une question. Un grand merci à vous, docteur Avakoudjo, pour tous ces conseils. On se retrouve pour la conclusion de notre échange, docteur Gérald Fin. Savoir quand consulter, c'est la question de Stéphane du Cameroun. Il souffre de vertige de temps en temps. Il a l'impression que c'est causé par une luminosité forte, que ses yeux ne supportent plus justement cette lumière. Est-ce qu'il doit consulter un ORL ?
Alors déjà, il fait son diagnostic tout seul, puisqu'il y a 6 organes de l'équilibre, l'œil droit, l'œil gauche, donc on sait où on est dans l'espace. L'oreille interne, c'est la position de la tête par rapport au corps, l'accélération du corps, la peau, les muscles, les tendons. Les capteurs, et ces 6 capteurs sont analysés par le cervelet qui est derrière le petit cerveau. Quand on peut avoir des troubles visuels, donc il décrit très bien ces troubles visuels qui ne sont absolument pas des vertiges. Donc il suffit simplement d'aller voir, de traiter ça par orthoptie ou par paire de lunettes, tout simplement.
Donc là, ce n'est pas l'ORL, c'est un autre praticien.
Ah oui, ce n'est pas du tout un problème ORL.
Ça. Mais en tout cas, ça nous renvoie vers notre prochain rendez-vous, docteur Gérald Fin. Je pense qu'on devrait parler des vertiges prochainement avec vous, parce que ça concerne aussi pas mal de monde. Il y a aussi pas mal d'idées reçues sur la question. Et je suis sûre que vous serez là pour éclairer nos auditeurs.
Avec plaisir, Caroline.
À bientôt, donc, dans Priorité Santé. On va parler alimentation, nutrition dans quelques instants. Hein. Ce sera juste après Ricardo Banks avec ce titre « Ozumba ». Mbadiwi.
I know they move that way. Don't make me move that way. Guys, look at your sideways. Me, I know, come look us for child's play. So I said, them define me. For the long time, I've been silent. I don't run out, I've been styling. But they think, say, I'm in hiding. Cause they don't know how to find me. I'll be on no Zumba, by the way. I'll be on no Zumba, by the way. I'll be on no Zumba, for your pockets. If you only fight for your pockets, for your pockets. October 2020, something happened with the government. That is how we forget for where. For Zumba, by the way.
On parle alimentation et santé maintenant dans Priorité Santé. Et c'est avec vous, Bintou Chersek, bonjour.
Bonjour Caroline.
Nutritionniste diététicienne à Dakar. Et aujourd'hui, on va parler d'un aliment spécial, des œufs. Pas n'importe lesquels, les œufs de caille. Alors, on va commencer par le commencement. Pourquoi parler des œufs de caille ?
Ah, eh bien, on va parler des œufs de caille parce qu'il y a énormément de bruit quand même autour des œufs de caille depuis plusieurs années. Et ce sont des œufs qui sont pondus par les cailles. Les cailles sont de tout petits oiseaux, faciles à élever parce qu'elles prennent peu d'espace, elles se nourrissent de graines au sol, d'insectes et de petites proies. Mais figurez-vous que ces tout petits oiseaux pondent beaucoup, beaucoup d'œufs, entre 200 et 300 œufs par an.
Alors, quelle est la composition nutritionnelle de ces fameux œufs de caille ?
Alors, l'œuf de caille a presque exactement la même composition nutritionnelle que l'œuf de poule. Il contient surtout de l'eau, des protéines et du gras. Il y a à peu près les mêmes vitamines et sels minéraux que dans l'œuf de poule, le calcium, la vitamine D, le magnésium, le fer, le phosphore. Et puis, les teneurs peuvent être différentes, mais pas de manière significative. En revanche, il y a beaucoup plus de cholestérol dans l'œuf de caille que dans l'œuf de poule. C'est-à-dire que dans l'œuf de caille, il y a 844 mg pour 100 g d'œuf, contre que 380 mg de cholestérol dans l'œuf de poule. Alors, la différence la plus significative entre les deux œufs, en fait, c'est leur taille. L'œuf de caille est 5 fois plus petit que l'œuf de poule.
Alors, si vous avez choisi précisément, Bintou Chersek, de faire cette chronique sur les œufs de caille, c'est parce que, eh bien, ils sont assez populaires en ce moment sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ça soignerait, j'ai dit attention, ça soignerait, ça ne soigne pas. Ce sont des rumeurs, c'est de la désinformation. L'asthme, le diabète, ça rendrait les enfants plus intelligents, ça se saurait. Ralentit le vieillissement, c'est merveilleux. Améliore la mémoire, guérit le cancer. Bref, qui n'avait pas pensé plus tôt à ces œufs de caille? Est-ce que ça a vraiment, oui ou non, ses vertus?
Alors, j'ai parcouru la littérature scientifique et je n'ai trouvé aucune donnée qui permet d'imputer ses vertus à l'œuf de caille. Même si les prescripteurs d'œufs de caille, qui sont souvent d'ailleurs les éleveurs eux-mêmes, conseillent de manger un nombre d'œufs précis pour guérir chaque mal. J'ai même trouvé une étude qui démontrait que non seulement la consommation d'œufs de caille n'améliorait pas le diabète, mais que les doses que les vendeurs conseillaient à leurs clients diabétiques risquaient d'augmenter le taux de gras dans le sang.
Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on doit s'interdire pour autant de manger des œufs de caille.
Ah non, pas du tout. Dans beaucoup de pays, d'ailleurs, l'œuf de caille est considéré comme un aliment de choix, puis il est inclus dans des mets raffinés. L'œuf de caille contient une protéine parfaite, comme l'œuf de poule. On peut remplacer la viande, le poisson, la volaille dans certains repas par des œufs, au moins une à deux fois par semaine. C'est nourrissant et puis c'est moins cher. Et donc, on peut manger 20 à 30 œufs de caille par semaine sans problème.
On a compris, les œufs de caille, ça nourrit, ça ne guérit pas.
Absolument.
C'est tout simple, c'est un aliment et pas un médicament. Un grand merci à vous, Bintou Chersek. Tous ces conseils, on peut les réentendre sur le podcast de l'émission Priorité Santé à toute heure, notamment sur l'appli Pure Radio. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe. Demain, on va parler du syndrome de l'imposteur, sentiment d'être illégitime en dépit de compétences, de qualité, dévalorisation, confiance en soi. Vos questions et bien sûr en ligne une psy à votre écoute. Ce sera dès 9h10 temps universel. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et surtout portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque